Chapitre 57. En quelques mois de voyage à travers l'Ancien Monde, Oliver avait appris plus de choses qu'au cours de ses années d'études dans la bibliothèque géante de surplomb du monde. Comme Père Etam, mais pas de la même façon, il avait consigné tous les détails des paysages successifs, analysé scrupuleusement les montagnes qu'il traversait et assimilé tout ce qui pouvait l'être sur l'océan et sur ses côtes. Bientôt de retour chez eux, les deux jeunes gens y rapportaient assez de souvenirs pour les occuper jusqu'à la fin de leur jour. Avec 50 hommes, le capitaine Norcross était resté à Renda-sur-Bay pour aider les villageois à achever les tours, à solidifier les fortifications et à fabriquer assez d'armes pour donner du fil à retordre aux Norukai s'ils osaient revenir. Thaddeus s'était montré fou de gratitude.
« Les esclavagistes se remontreront, c'est dans leur nature. » Par le passé, nous leur avons déjà résisté, mais la victoire leur est toujours revenue. « Eh bien, cette fois, » avait dit Zimmer avant d'ordonner à la colonne de se mettre en route, « vous ferez bien mieux que leur résister. Le capitaine Norcross s'en assurera et ils n'oublieront pas la leçon de sitôt. »
Juste avant le départ, le jeune officier, ému, avait dit au revoir à sa sœur, tout excité de participer à l'expédition. À deux sur un cheval, à cause d'une relative pénurie de montures, Oliver et Peretta avaient pris la tête de la colonne. Malgré une traversée sans histoire depuis Serimundi, 10 chevaux étaient morts dans la cale. À l'évidence, les équidés ne supportaient ni la mer ni la claustration. Navré pour ces pauvres animaux, Oliver avait pourtant conscience que les survivants connaîtraient un sort plus terrible encore s'ils se retrouvaient au milieu d'une guerre. Perdu dans ses pensées, le jeune érudit frissonna alors que les soldats, l'élite de l'armée du seigneur Ral, disait-on, remontaient le fleuve en direction de son pays natal. Assise devant lui, Peretta se retourna.
« Qu'est-ce qui cloche? Je t'ai senti trembler.
J'ai pensé à la guerre. »
Oliver s'avisa qu'il serrait de très près sa compagne, rien d'anormal sur une si petite selle. Comme elle n'était pas bien grasse, il sentait sa colonne vertébrale contre sa poitrine. Mais ça n'avait rien de désagréable.
Et pourquoi as-tu pensé à la guerre?
Eh bien, tous ces soldats et ces destriers.
Tu es sûr d'avoir écouté ce que la dame abbesse et le général nous ont dit? La guerre est finie, et l'ordre impérial l'a perdu. Grâce au seigneur Ral, le monde va connaître une ère de paix et de prospérité, et nous serons de la fête. Nietzsche nous a tenu le même discours. Ce sont de très bonnes nouvelles.
Alors pourquoi tous ces soldats?
Pour quelle raison ton seigneur Hall a-t-il besoin d'une telle armée? Parce qu'il n'y a rien de plus fragile que la paix. Mon ami, tu t'inquiètes beaucoup trop.
En colonne par deux le long du fleuve, l'expédition avança à un bon rythme. Traversant une série de collines, elle descendit dans une grande vallée où elle découvrit des vestiges d'une voie impériale. Chaque soir, le général et la dame abbesse invitaient les deux érudits à dîner. Après le repas, Zimmer étudiait la carte quotidienne remise à jour par ses spécialistes. Verna était insatiable d'informations sur surplomb du monde et ses trésors de connaissances magiques. Capable de réciter certains grimoires du début à la fin, Peretta ne s'en privait pas, parfois au point de lasser la dame abbesse en personne. Plus ouvert aux autres, Oliver choisissait mieux ses histoires et les racontait sans ennuyer son public. Assis autour de la table centrale, sous la grande tente du général, les quatre dîneurs se régalaient d'une dinde sauvage, le trophée de chasse d'un éclaireur. En verve, Oliver aborda l'histoire complexe de surplomb du monde. Avant les grandes guerres, au temps où la magie était hors la loi et les détenteurs du don traqués comme des bandits, certains sorciers ont compris qu'il fallait protéger les connaissances afin de les léguer aux générations futures. À cette époque, ne l'oubliez pas, les bibliothèques magiques étaient souvent pillées ou incendiées. Des années durant, alors que les forces de Sulakan submergeaient l'Ancien Monde, ces sorciers glanèrent tous les textes qu'ils purent trouver et les regroupèrent dans un grand complexe inexpugnable, un coin isolé de tout, au fin fond du désert, au milieu d'une enfilade de canyons. Ce refuge, ils le nommèrent « Surplomb du Monde », à cause de sa configuration très particulière. Même sous la torture, les pères fondateurs de la grande bibliothèque gardèrent le silence. Surplomb du Monde prospéra et son fonds devint assez vite le plus riche de tous. Oliver marqua une pause et en profita pour savourer un délicieux morceau de viande. Un jour, les sorciers lancèrent un sort de camouflage pour protéger leur trésor. 3000 ans durant,
surplomb du monde fut dissimulé par ce qui semblait être une haute falaise.
Beretta lui tendant une serviette, le jeune homme se tamponna consciencieusement les lèvres.
« Aujourd'hui, une nouvelle génération d'érudits peut étudier les antiques grimoires. »
« Il y a 50 ans,
intervint Beretta,
une mémoriste a découvert un moyen de neutraliser le sort de camouflage. »
Pensive, elle eut une moue mi-figue mi-raisin.
« C'était Victoria. Elle a fait beaucoup de dégâts ensuite. Mais si Surplomb du monde est de nouveau accessible, c'est grâce à elle. Pendant des siècles, des hommes et des femmes avaient essayé sans obtenir de résultats. »
« Vous n'avez que ce mot-là à la bouche, »
dit Zimmer avec un sourire.
« Mémoriste, mémoriste, mais nous ne savons toujours pas vraiment ce que c'est. »
Beretta ne se fit pas prier pour développer le sujet.
« Les mémoristes sont des détenteurs du don chargés de préserver les connaissances d'une façon très originale. Nous les gravons dans notre esprit, du premier mot au dernier. Quand le sort de camouflage était en place, nous passions notre temps à lire et à mémoriser. »
Pendant 3000 ans?
S'étonna Verna.
Comment avez-vous survécu si longtemps?
Grâce à un sort de préservation intégré à la pierre?
Non, notre espérance de vie est normale. Les mémoristes se transmettent les textes de génération en génération. Pendant des millénaires, nous fûmes les seuls à connaître toutes les prophéties, tous les sorts et toute l'histoire consignée dans les livres.
Aujourd'hui, intervint Oliver, n'importe qui peut consulter ces ouvrages. Voyant Beretta sursauter, il s'empressa de la consoler.
Les mémoristes sont toujours très précieux. Quand il s'agit de retrouver des connaissances, ils se révèlent bien plus rapides qu'un érudit condamné à passer devant des kilomètres de rayonnage avant de trouver l'ouvrage de référence. Le mieux, c'est que les mémoristes et les érudits travaillent ensemble.
Le jeune homme prit une cuisse de dinde, la sépara en deux et offrit une moitié à sa compagne, qu'il accepta comme une sorte d'offre de paix.
« Quand mes sœurs et moi pourrons nous attaquer à ces archives, » dit Verna, « je serai la plus heureuse des femmes. L'idée que des sorts dangereux soient entre les mains d'amateurs me rend malade. Grâce à vous, nous allons enfin être de nouveau utiles. »
Oliver s'attaqua courageusement à un deuxième biscuit réglementaire. La dame abbesse avait raison. Il suffisait de penser au buveur de vie ou à Victoria. Dans des styles différents, les deux étaient passés bien près de détruire le monde.
« Nous sommes très heureux de vous servir de guide, »
dit le jeune érudit une fois son biscuit avalé. Le lendemain, l'expédition traversa la vallée, puis s'engagea dans de hautes montagnes où elle dépassa des villages et des campements. Arrivés à Lock Ridge, les voyageurs furent impressionnés par la volonté de reconstruction des villageois. Même si tard dans la saison, on ensemençait encore les champs, et des émissaires intrépides arpentaient toutes les routes pour relancer le commerce avec les autres agglomérations. Louis Barr, le maire, vint accueillir la colonne et reconnut immédiatement Oliver et Beretta, qui s'étaient arrêtés à Lock Ridge des semaines plus tôt. Quelque temps auparavant, Nietzsche, Nathan et Bannon avaient libéré ce village et tous ceux des environs du joug du juge suprême, un démon qui déclarait tous les gens coupables puis les transformait en statues. Nietzsche et Nathan l'ayant tué, tous les pétrifiés s'étaient réveillés. À ce jour, personne ne savait combien d'années, de décennies, voire de siècles, ils étaient restés ainsi, mais ils réapprenaient à vivre avec enthousiasme.
« Pour tant de gens, » se désola le maire, « nous avons très peu de vivres. » Mais il nous reste du grain et des saucisses fumées, et que diriez-vous d'un grand chaudron de ragoût de chèvre ?
Du ragoût de chèvre ?
Répéta Zimmer.
Quelle bonne idée ! Merci de votre hospitalité. Mes soldats puiseront l'eau de vos puits et mes officiers dormiront dans votre auberge.
Chez l'habitant, il y a une vingtaine de lits disponibles. Les autres hommes devront camper. Nous leur trouverons de bons endroits.
Le général sourit.
Mes gars tireront au sort pour savoir lesquels dormiront sur des matelas ou à même le sol. Pour la cuisine, nous vous aiderons autant que possible.
Zimmer envoya ses meilleurs chasseurs dans la forêt, d'où ils revinrent avec 2 daims bienvenus pour améliorer l'ordinaire. Le soir, pendant le banquet, les habitants de Lock Ridge se réjouirent que l'armée de Dara soit venue leur délivrer un message de paix et de prospérité. Assis côte à côte, Beretta et Oliver se régalèrent de chèvres, de haricots et de soupe d'orge. Le regard un peu voilé, la jeune femme se pencha vers son compagnon.
Quand nous sommes passés par ici, j'ignorais combien le monde était grand, et je n'avais aucune idée du chemin que nous avions parcouru. Nous avions le sentiment d'être si loin de chez nous. Et aujourd'hui, de retour à Lockridge, surplomb du monde nous paraît si proche.
Nous y sommes presque, assura Oliver.
Il tapota le bras de Peretta, puis retira vivement sa main.
Je te jure que nous y arriverons.
Les deux jeunes gens dormirent enroulés dans des couvertures sur la place de la ville. Habitués aux nuits à la belle étoile, ils n'avaient même pas participé au tirage au sort. De plus, Oliver ne détestait pas l'idée de passer la nuit seul avec sa compagne. L'expédition repartit, suivant la route qui allait de sommet en sommet, toujours plus haut chaque fois. Alors qu'ils sondaient une vaste vallée, Oliver retint son souffle et ouvrit les yeux en grand. Malgré sa vue déficiente, il distingua des bosquets, le ruban argenté d'une rivière, une myriade de petits lacs et même des champs cultivés. Au bout du compte, il sut ce qu'il regardait.
C'était la Balafre. Il n'y a pas si longtemps que ça.
Dois-je comprendre que nous sommes arrivés ?
Demanda Verna, à la fois joyeuse et méfiante.
Disons que nous approchons de plus en plus,
modéra Peretta.
Mais il reste encore des jours de voyage.
Oliver se montra bien plus enthousiaste.
Cette vallée n'était qu'un désert il y a quelque temps, l'œuvre du buveur de vie. Puis Victoria en a fait une jungle impénétrable. Mais tout est revenu à la normale, grâce à Nietzsche,
enchaîna Peretta. Elle désigna la vallée.
Nous allons devoir descendre, traverser la plaine, puis remonter vers le désert. Vous voyez la Mesa à l'horizon? C'est là que sont les canyons et surplomb du monde.
Assise derrière sa compagne, Oliver la sentit frémir.
Oui,
dit-il pour elle plus que pour quiconque d'autre.
Nous sommes presque chez nous.